Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Cazin. Au micro, Christiane Blanc. C'est dans le Perche que j'ai rencontré Gérard Guyot, chef, ingénieur, navigant d'essai, directeur de ce département à Airbus Industrie, pilote. Il a écrit un ouvrage avec Michel Polacco, Le tour du monde en 48 heures, aux éditions du Cherche Midi. Je l'ai lu et je dois dire que j'ai été passionnée. En effet, Gérard Guyot est le pilote qui a organisé et préparé les tentatives réussies du World Ranger en juin 1993. Il est l'un des quatre pilotes qui se sont attribués les quatre records du monde établis en juin 1993 par l'Airbus A340. Il est officier de la Légion d'honneur, décoré par Dominique Bussereau au ministère des Transports en 2003. Gérard Guyot, bonjour.
Bonjour.
Peut-être, avant que nous évoquions ce voyage du tour du monde en 48 heures et 22 minutes, eh bien, je voudrais vous demander, d'ailleurs, comment vous est venu ce goût pour l'aviation ?
Alors, écoutez,
dans votre enfance, déjà, peut-être, vous avez eu un père, un grand-père qui était pilote. Comment ça s'est passé ?
Non, pas du tout, mais je crois que j'ai été influencé par ma mère, déjà, parce que ma mère avait 13 ans en 1927, et elle avait été fascinée par la traversée de l'Atlantique par Charles Lindbergh.
Oui, on l'était tous de voir ça.
Et donc, elle m'en a parlé souvent, même quand j'étais enfant.
Oui.
Et donc, j'ai commencé à m'intéresser aux avions. Et à l'époque, ce n'était pas le mercredi, c'était le jeudi que nous avions un jour libre à l'école.
Oui.
Et quand j'avais 12-13 ans, j'habitais avec mes parents à Clamart, en banlieue parisienne. Mmh. Et je prenais mon vélo pour aller à Orly. Je me mettais près des balustrades parce qu'à l'époque, les parkings étaient au bord de la route nationale 7.
Ah oui, si tôt déjà, vous aviez envie d'aller à Orly en vélo.
Absolument. Et là, je regardais, c'était à l'époque des avions hélices, les super constellations qui mettaient en route leur moteur dans un nuage de fumée en crachant des flammes. Et alors, je respirais l'odeur de l'huile chaude des moteurs. C'était vraiment formidable. J'y allais presque tous les jeudis quand il faisait beau.
Ah oui. Donc déjà, vous aviez envie de conduire conduire entre guillemets un avion ?
Oui, absolument, oui.
Ah oui ?
Oui, c'était mon but.
Donc vos parents vont vous diriger vers des études appropriées ?
Non, justement pas.
Ah.
J'étais, moi, dans une famille de gadzards, d'ingénieurs d'arts et métiers. Et moi, j'ai voulu rentrer à Air France, qui à l'époque recrutait des jeunes pour faire une formation ab initio de pilote de ligne.
Ah oui.
Après le baccalauréat.
Donc vous passez votre bac.
Oui.
Vous êtes en quelle section, Mathélème?
Oui, Mathélème.
Voilà.
Et ensuite, cette carrière m'a été bouchée à cause d'un problème de vue. Car à l'époque, c'était impératif d'avoir 10 dixièmes sans correction. Alors qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup assoupli. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pour ça qu'après, j'ai pu devenir pilote.
Vous avez, avec l'A340, vous aviez toujours la même vue, mais vous aviez des lentilles de contact,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, absolument. Et aujourd'hui, les lentilles de contact sont acceptées dans les compagnies aériennes. Et quand les jeunes pilotes myopes, ils peuvent rentrer comme pilotes de ligne sans problème.
Oui, parce que moi, j'ai rencontré effectivement des gens qui n'avaient pas pu faire ce qu'ils voulaient faire, à savoir piloter, parce qu'ils étaient myopes.
Voilà, c'est ça.
C'était...
Donc, si vous voulez, moi, à ce moment-là, je suis rentré dans une école d'ingénieurs pour devenir ingénieur électronicien, car l'électronique m'intéressait, c'était quand même assez le début.
Oui, oui.
Et ensuite, une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, je suis parti faire mon service militaire, moitié en France, moitié en Algérie, car j'étais dans le dernier contingent qui a fait 28 mois de service militaire.
Ah oui.
Et je suis rentré d'Algérie... 15 jours ou 3 semaines avant les accords d'Évian qui mettaient fin à la guerre d'Algérie.
Oui. Alors là, qu'alliez-vous faire ?
Alors, il fallait que je commençais à réfléchir pour trouver un emploi.
Bien sûr.
Et alors, ingénieur électronicien, il y avait une boîte qui m'intéressait, c'était IBM, parce que c'était à Cannes.
Ah oui.
Et puis, nous avions en Algérie un petit journal dans l'armée qui s'appelait Le Bled. Il y avait des petites annonces. Et je tombe sur une petite annonce, centre d'essai en vol de Brétigny, recherche ingénieur électronicien.
Ah, vous étiez sauvé.
Donc, évidemment, quand j'ai vu le mot vol, ça tout de suite, je me suis dit, bah, dès que je rentre, je prends un rendez-vous pour aller au centre d'essai en vol. Et là, je vais au centre d'essai en vol, on m'avait proposé deux places. D'abord, le service méthode. Le service méthode, c'est le service qui gère toutes les installations d'essai, les installations de mesure qu'on installe sur les avions pour les essais. Et là, le patron de ce département me dit, vous savez, si vous venez ici en espérant voler un jour, vous vous trompez de porte, parce qu'ici, on fait du labo, on fait tout ça.
Ah, donc, ce n'était pas la bonne porte.
J'ai dit, bon, écoutez, merci, je vais voir. Donc, j'étais dans un autre service qui s'appelait les armes et engins, qui était dirigé par un colonel de l'armée de l'air, et qui me dit, écoutez, si vous venez, vous allez être affecté à l'arme nucléaire du Mirage 4, qui était la pointe de la technologie, puisque c'était la force de frappe voulue par le général de Gaulle.
Bien sûr.
Et il me dit, et si ça vous plaît de voler, si vous avez envie de voler, vous pouvez préparer le concours pour rentrer à l'école du personnel navigant d'essai et de réception pour devenir ingénieur navigant d'essai.
Ça, c'était merveilleux.
Alors, évidemment, j'ai sauté là-dessus.
J'imagine que vous avez préparé le concours avec bonheur.
Oui. Et je suis rentré au centre d'essai en vol 2 semaines après être rentré d'Algérie.
Ah oui, tout de suite.
Tout de suite, oui.
Et alors là, vous avez commencé à voler?
Alors, j'ai commencé à voler parce que j'ai eu tout de suite une carte de stagiaire qui permet de commencer à faire des vols avant de rentrer dans cette école.
Ah oui, c'était très bien ça.
Et en même temps, j'ai préparé le concours. Et l'année d'après, bah, j'ai intégré cette école qui est à Istres, près de Marseille. Et c'est une école qui dure, les études durent une année scolaire. Et c'est une année au cours de laquelle on fait des cours théoriques le matin.
Oui.
Et les travaux pratiques en vol l'après-midi. On vole sur beaucoup d'avions de types différents. Donc c'était une année fantastique.
Donc là, ça a été la première fois que vous pilotiez.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, puisque c'était un désir depuis l'âge de 9 ans, qu'est-ce que vous avez ressenti?
C'était formidable. J'étais pilote privé. Pendant que je préparais le concours pour entrer dans cette école, j'ai passé le brevet de pilote privé. C'était obligatoire pour pouvoir être ingénieur navigant d'essai. Et bien sûr, le fait de piloter, c'était mon rêve. Mais en plus de voler sur des avions comme le Mirage 3, sur des avions extraordinaires, en étant jeune ingénieur, c'était fabuleux.
Bien sûr.
Et quand je suis sorti de l'école du personnel navigant, j'étais donc toujours affecté aux essais de l'arme nucléaire du Mirage 4.
Ah oui.
Et je partais avec un Mirage 4... et une équipe de mécaniciens pour la maintenance de l'avion, au Sahara, sur la base française de Colombéchard, que nous avons gardée jusqu'en 1965, après la guerre d'Algérie.
Alors là, vous avez quel âge?
Écoutez, j'avais 26 ans.
Oui.
Et j'étais jeune ingénieur, j'avais mon Mirage 4.
Quoi demander de plus?
Et certains jours, je faisais 4 vols.
Ah oui.
Et des vols supersoniques, c'était un rêve, franchement, j'étais très très heureux.
Voilà, donc c'était vos débuts de pilote.
D'ingénieur surtout.
D'ingénieur, oui, mais aussi de pilote, puisque c'était la première fois que vous aviez les manettes d'un avion. On dit
absolument.
Les manettes, oui.
Les commandes.
Alors, je reviens maintenant à notre livre, c'est en 1993... que vous battez le record du monde de distance en pilotant l'Airbus A340 World Ranger avec une seule escale à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Et cela en 48 heures, 22 minutes. Alors, peut-être maintenant, j'aimerais que vous nous fassiez l'histoire de ces Airbus, parce que ça n'a pas été tout de suite, cet A340. Alors, quels sont les, les avions qui ont précédé.
Alors, le tout premier avion, c'était l'A300, qui a été le premier biréacteur au monde avec un large fuselage. Parce que jusqu'à présent, les longs courriers étaient surtout des quadrimoteurs. Et cet avion a fait son premier vol en octobre 1972.
Ah oui.
Et ensuite, moi je suis rentré à Airbus en 1973. Et avant de rentrer à Airbus, où j'étais d'abord embauché par M. André Turcat, qui était le chef pilote de Concorde.
Oui.
Qui m'avait apprécié, puisque j'ai fait pas mal de vols de Concorde en étant encore au centre d'essai en vol, comme représentant des services officiels. C'est-à-dire, vous savez, les vols d'essai sont faits par le constructeur.
Oui.
Et certains vols sont faits avec des gens des services officiels à bord pour la certification de l'avion.
Oui. Voilà. Ce qu'on va voir un peu plus tard. Oui. Donc, déjà, Concorde. Et puis ensuite, j'en arrive à 1991, 4 octobre.
Alors là, c'est le premier vol de l'A340,
oui,
qui était un grand événement pour nous parce que c'était le premier quadri-réacteur fait par Airbus et le premier vrai long courrier.
Oui. Et quand vous dites long courrier, ça veut dire
C'était transpacifique, transatlantique, vous voyez, voilà, des vols de 12-13 000 km sans escale.
Et puis 1992, je pense au 340 à Singapour, vous pouvez nous raconter.
Oui, alors vous savez, avec nos avions, on a fait beaucoup de démonstrations un petit peu partout dans le monde. Je pourrais en citer, des dizaines. Et
alors,
entre autres, il y a un salon de l'aéronautique à Singapour où on a présenté presque toujours tous nos avions.
Oui, et aussi, il y a eu un banc d'essai en 1993. C'était entre Toulouse et l'Australie.
Oui, voilà. Alors, c'est-à-dire que nous étions invités pour un salon de l'aéronautique qui était à Sydney, en Australie.
Oui.
Et nous voulions y aller avec le 340. Mais c'était, du point de vue carburant, c'était un petit peu juste. Si bien que nous avons décidé d'aller de Toulouse à Perth, qui est au sud-ouest de l'Australie. C'est un petit peu plus court. Il se trouve que quand nous sommes arrivés à Perth, on avait encore assez de carburant pour aller à Sydney, finalement. Mais comme il y avait beaucoup d'officiels qui nous attendaient à Perth, on a bien été obligés de nous poser là avant d'aller à Sydney. Mais c'était déjà un vol de plus de 15 heures. C'était...
Oui. Donc, le record du B747-400, vous en parlez à la page 29, peut-être puis-je lire ou vous en parlez.
Oui.
Je lis le début. Si le record symbolique tenté par le World Ranger était le tour de la Terre avec une seule escale, son vrai sens commercial se trouvait dans sa capacité, si elle était démontrée, d'effectuer des étapes sans escale de près de 20 000 km. Le dernier record homologué dans ce domaine avait été tenté et réussi le 16 août 1989 par un Boeing 747-400 de la compagnie australienne Qantas, l'avion étant la dernière version et la plus moderne du produit phare de Boeing, le 747 Jumbo Jet Boeing était donc le tenant du titre, même si le record était signé par les pilotes australiens. Donc ça, c'était déjà un record.
Oui, absolument.
Très important. Alors maintenant, j'en arrive à ce fameux tour de la Terre qui nous occupe vraiment aujourd'hui. Alors, ça a commencé par l'A300, après l'A310, l'A320, et un grand pas a été fait en 1987. C'est ça.
Voilà, le grand pas, c'est 1987. Le premier vol de l'A320,
oui,
qui était un court ou moyen courrier, et qui était le premier avion commercial au monde avec des commandes de vol électriques. Et nous avons, à cette occasion, supprimé le manche classique des avions.
Ah oui!
pour introduire un petit manche latéral comme un joystick des jeux vidéo. Si vous...
Ça vous changeait la vie ?
C'était une décision très logique, puisqu'à partir du moment où on pilote l'avion à travers des électrons,
oui,
on n'a pas besoin d'une énorme mécanique pour bouger des câbles, puisqu'on ne donne que des ordres électriques.
Oui, c'est
ça. Ça a dégagé la place dans le cockpit. Et tous nos avions, depuis la 320, ont le même cockpit.
Comme ça maintenant.
Oui.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Gérard Guyot, ce pilote qui a organisé et préparé les tentatives réussies du World Ranger en juin 1993. Alors, vous aviez dans cette première partie évoqué d'abord votre vocation, je dirais, pour l'aviation, mais aussi les différents avions. Alors, si vous voulez bien résumer pour nos auditeurs qui nous rejoindraient maintenant, les différents avions, le A300 en particulier.
Oui, donc j'ai déjà parlé du premier vol de l'A300 qui était en octobre 1972. Moi, j'ai fait le premier vol du deuxième avion début février 1973, juste après mon arrivée au sein de l'équipe d'essai en vol d'Airbus.
Oui.
Alors ensuite, nous avons eu 4 avions d'essai. Et après un an d'essai, nous avons été à un salon de l'aéronautique à côté de Sao Paulo au Brésil. Et c'était donc au mois de septembre 1973, 11 mois seulement après le premier vol du premier prototype, que nous avons traversé l'Atlantique pour la première fois.
Ah oui.
Après une escale à Dakar, parce que l'autonomie de l'avion ne permettait pas de faire Toulouse-Sao Paulo sans escale.
Oui, ça c'était quand même un point aussi très important.
Oui, hein. Oui, c'était. Et alors, à l'époque, personne ne connaissait Airbus.
Oui, oui.
Et nous avons donc été à ce salon de l'aéronautique, où nous faisons des vols de démonstration tous les jours.
Mmh.
Et ensuite, nous avons continué pendant 6 semaines par... une tournée de démonstration en Amérique du Sud, Amérique du Nord.
Ah oui. Donc là, déjà, on commençait à connaître ces avions.
Oui, mais enfin, c'était reconnu par un nombre de gens assez limité, parce qu'on allait surtout dans les compagnies aériennes. Et puis les Américains, à l'époque, ils se rigolaient un petit peu en disant « qu'est-ce que c'est que ces gens qui font un gros bimoteur pour emmener beaucoup de passagers ?» À l'époque, Boeing nous traitait d'amateurs un petit peu.
Ah oui, à ce point-là.
Oui, oui.
Ah oui, on n'imagine pas maintenant.
Oui, oui. Ah absolument.
Oui. Donc, à ce moment-là, l'A340 va arriver.
Ah, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en 1976, on avait des A300 avec des queues blanches, c'est-à-dire sans clients, qui s'alignaient sur le parking de Toulouse.
Ah oui.
Les seuls avions qui avaient été vendus, c'était Air France, Lufthansa, et puis Air Siam, qui avait acheté 2 avions. C'était rien du tout. Et on s'est posé la question si on n'allait pas mettre la clé sur la porte
en 76. Oui, s'il n'y avait personne, voilà. C'était un problème, oui.
Et à l'époque, nous avions un président qui s'appelait Bernard Latière, dans 76-77, et un jour, il y a un ancien cosmonaute américain qui s'appelle Frank Borman, qui était le président d'une compagnie qui s'appelait Eastern Airlines, et Bernard Latière l'a invité à Toulouse pour voir nos avions.
Mmh.
Et Frank Borman finalement, après 2-3 jours, a dit « Écoutez, vous me prêtez 4 avions pendant 6 mois. »
Ah, oui.
Et en fonction de mon évaluation, ben on verra si je vous commande des avions. Et finalement, Frank Borman a commandé des Airbus, 6 avions pour sa compagnie aérienne.
Et ça, c'était le début, on peut dire. De...
Donc, je crois que c'était en 76 ou 77, mais ça a été le début du succès d'Airbus parce que les Américains ont dit « Airbus a vendu des avions aux États-Unis ». Donc, le monde entier a commencé à se poser la question « Qu'est-ce que c'est qu'Airbus ?» Et voilà.
Ah oui, c'est comme ça que l'histoire, en fait, a commencé. Et que vous êtes arrivé à faire plus après.
Absolument.
Ah oui. Et en plus, vous, vous l'avez suivi, si je puis dire.
Ah ben, bien sûr.
Ouais. Ça, c'est ça qui est merveilleux, ouais. Parce que votre carrière a fait que vous l'avez connu tout le temps.
Oui, et puis j'ai eu la chance d'être à la période, ce qu'on appelle la période des pionniers. Nous étions très peu nombreux aux essais en vol, et on ne faisait pas seulement des essais. Moi, le directeur technique m'envoyait... en Afrique du Sud, pour négocier le contrat sur les garanties de performance, des choses comme ça. On faisait tout.
Ah oui, très intéressant.
Non, c'était passionnant.
Ah oui.
C'est plus comme ça aujourd'hui.
Non, parce que maintenant, j'imagine que chacun a son secteur n'empiète pas sur les autres.
Aujourd'hui, Airbus est devenu une énorme boîte et c'est plus du tout pareil.
Oui. Alors, peut-être maintenant, on peut en arriver à notre avion, notre A340.
Ben, je voudrais d'abord parler du 320.
Oui.
Dont le premier vol a été fait en mars 87, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans maintenant. Mm-hmm. Et cet avion, c'était vraiment une révolution, parce que c'était le premier avion commercial à commande de vol électrique.
Ah oui.
Où on pilote les gouvernes de l'avion par des électrons.
C'était nouveau aussi pour vous?
Ah oui, oui, bien sûr.
Complètement, oui.
Alors, pour être tout à fait exact, Concorde a eu des commandes de vol électrique, mais c'est un petit peu technique, qui étaient des commandes analogiques et qui avaient un secours mécanique.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si les commandes de vol électrique étaient en panne, il y avait une mécanique classique qui pouvait remplacer. Mmh. Alors que nous, sur la 320, il n'y avait pas de secours mécanique, c'était simplement tout électrique, mais avec trois... canaux de calculateur, si vous voulez. Donc cet avion, c'était vraiment une révolution technologique. Et c'est vraiment un des premiers vols que j'ai fait où j'ai eu la perception que c'était une révolution. Quand on a décollé, j'ai dit bon, alors voilà, on a décollé avec des ordres électriques.
Ah oui, c'était complètement différent de tout ce que vous aviez eu jusque-là. Ouais.
Et puis en plus, on avait un cockpit magnifique qu'on a gardé jusqu'au 350 aujourd'hui. Tous nos avions ont le même cockpit.
Oui, depuis la 320
Oui.
Donc ça, c'était vraiment déterminant.
Oui. Alors la 320, c'est un avion avec lequel on a eu quelques problèmes avec des compagnies aériennes, parce que c'était un avion qui a été fait pour un équipage à deux. C'est-à-dire qu'on supprimait la fonction de mécanicien navigant.
Ah oui.
Et donc on a eu... pas mal de discussions, en particulier avec notre compagnie nationale.
Ah oui.
Et c'était ensuite, je suis assez fier de cet avion parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que plus de 30 ans après, il y en a déjà 7000 en service et il y en a plus de 6000 encore en commande.
Vous qui l'avez, en fait, vous étiez à l'initiation. C'est très intéressant.
Et il faut savoir qu'aujourd'hui, Airbus produit presque 50 avions par mois, et que l'objectif, dans les 3 ans qui viennent, c'est d'arriver à 70.
Ah oui.
Que l'avion est produit dans 4 usines dans le monde. Toulouse, bien sûr, la base principale, Hambourg... Mobile aux États-Unis, en Alabama, et une usine en Chine à Tianjin.
Ah oui.
Donc c'est vraiment un best-seller, cet avion. Ah extraordinaire.
Oui. Ah oui, puis alors quand on a eu la chance d'être à l'initiative de tout ça, c'est magique, je dirais.
Oui. Oui, absolument.
Alors on en arrive à la 340.
Oui.
cet A340, bien sûr, ça a été un grand succès aussi.
C'était un grand succès, mais finalement un succès mitigé, parce que on est arrivé à un moment de l'histoire où tout le monde voulait des bimoteurs. Alors je vais vous dire pourquoi on a fait le 340. C'était que à l'époque, les biréacteurs, ils devaient toujours être à 90 minutes d'un aéroport de déroutement. Au cas où un des moteurs tombe en panne, il vous reste plus qu'un moteur, et donc il fallait une heure et demie avoir un aéroport.
Oui, impressionnant quand même.
Voilà. Donc, notre idée, nous, avec un quadrimoteur, c'était de nous affranchir de cette limitation.
Ben oui.
Parce que c'est une limitation 90 minutes qui, si vous voulez traverser l'Atlantique, vous oblige à passer par le nord pour passer sur l'Islande, le Groenland, le sud du Canada et rejoindre New York, par exemple.
Oui, oui.
Donc, ça rallonge beaucoup les vols.
Oui.
Et puis, la fiabilité des moteurs s'est tellement améliorée qu'on est passé de 90 minutes à 120 minutes, puis 180 minutes, etc., etc. Ce qui fait que l'avantage du quadrimoteur, petit à petit, a disparu.
Mmh.
Et nous, évidemment, nous avons aussi fait quelque chose qui était très bien, c'est qu'avec le même avion que le 340, on a fait l'A330, qui est le même avion avec deux moteurs au lieu de quatre. Donc, même fuselage, les mêmes ailes. Mmh. Donc, sur le plan industriel, c'était
pareil, oui.
Un très bon choix. Et aujourd'hui, c'est le 330 qui est déjà un avion de l'époque du 340, déjà un petit peu ancien. Mais on a une version Néo et maintenant, l'avion se vend encore très, très bien.
Ah oui. Alors, vous vendez dans quel pays vous achetez ?
C'est tous les pays du monde. Tous les pays du monde, oui.
Alors, j'en arrive à ces records à battre, parce que, en fait, c'était ça avec la 340.
Alors, l'objectif n'était pas de battre des records. Les records ont été une conséquence.
Oui.
L'objectif, si vous voulez, c'était... Bon, on a parlé du vol vers l'Australie.
Oui.
Mais j'ai fait un autre vol après. Vous savez, à la fin des essais de chaque avion, on doit faire ce qu'on appelle le route proving, c'est-à-dire faire 200 heures de vol, par exemple, dans un environnement d'une compagnie aérienne pour démontrer que l'avion remplit sa mission et peut effectuer des vols pour lesquels il a été fait. Et moi, j'ai pas mal volé avec Lufthansa. Lufthansa est une compagnie qui avait demandé à avoir le 340. Je pense qu'Airbus, on a fait le 340 un petit peu à cause d'eux. Et c'était une compagnie qui était très fanade d'Airbus.
Eh bien, je vais vous interrompre parce que nous arrivons à la fin de notre émission. Nous n'avons pas encore abordé cette grande manifestation. C'est pourquoi, chers amis auditeurs, je vous demande de nous rejoindre le mois prochain dans notre émission Histoire d'en savoir plus. Et vous saurez comment on a réussi à battre ce record de cet avion qui a réussi à faire ce tour du monde en 48 heures et 23 minutes. C'est bien cela, Gérard Millot ?
Absolument, c'est exact.
Eh bien, à la fois prochaine, je vous invite également à nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. I'm down to hear you say, if only for today.